Bonjour à tous.
Je m'enfonçais dans son corps humide comme une charrue bien manœuvrée s'enfonce dans la terre. Son ventre nu s'ouvrit à moi comme une tombe fraîche. Je dégrafais Dorothea, je souillais son linge et sa poitrine de la terre fraîche qui s'était collée à mes doigts. Ses seins, sortis de ses vêtements, étaient d'une blancheur lunaire.
Sur les nouveaux chemins où toute cette semaine nous espérons avec Georges Bataille une déchirure du ciel. Ce moment où les objets connus cèdent la place à une présence uniquement intelligible pour le cœur. Tel lundi où les mots ont laissé la place à l'expérience poétique, tel hier, mardi, où le projet politique a laissé la sienne à la souveraineté du présent, tel demain, enfin, où la morale se transformera en hypermorale, et tel aujourd'hui où la sexualité se fait transgressive et érotique. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins est une présence intelligible seulement pour le cœur. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Lucie Tardy, David Pargamin, Denis Ramon, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Jean Cotterel, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Alex Dang. À d'autres, l'univers paraît honnête. Il semble honnête aux honnêtes gens parce qu'ils ont des yeux châtrés. C'est pourquoi ils craignent l'obscénité. Ils n'éprouvent aucune angoisse s'ils entendent le cri du coq ou s'ils découvrent le ciel étoilé. En général, on goûte les plaisirs de la chair à la condition qu'ils soient fades. Mais dès lors, il n'était plus de doute. Je n'aimais pas qu'on nomme les plaisirs de la chair, en effet parce qu'ils sont fades. J'aimais ce que l'on tient pour sale. Je n'étais nullement satisfait, au contraire, par la débauche habituelle, parce qu'elle salit seulement la débauche et, de toute façon, laisse intacte une essence élevée et parfaitement pure. La débauche que je connais souille non seulement mon corps et mes pensées, mais tout ce que j'imagine devant elle et surtout l'univers étoilé. Dans l'histoire de l'œil, il n'y a pas qu'un œil, il y a aussi un œuf. Étrange ressemblance de ces deux plénitudes qui tendent irrésistiblement vers leur béance. Étrange ressemblance qui fait que chez Bataille, on peut casser un œil et crever un œuf. Qui fait que œuf ou œil ou œuf se glissent dans les recoins et sont toujours prêts à exploser, à être sacrifiés, à être mis hors de leur scène, obscène. Comme nous d'ailleurs quand nous lisons les histoires de Bataille. Amusés, parfois horrifiés et toujours fascinés, nous faisons l'expérience de nos propres limites, toujours sur le point d'être mis hors de nous, cassés et crevés. C'est que même à la transgression, nous nous étions habitués et celle de Bataille nous rappelle le péché de sa fadeur. Comment d'un œil et d'un œuf, Bataille a-t-il donc expérimenté les limites de l'érotisme pour le rendre à sa transgression essentielle? Eh bien, pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sabot, professeur de philosophie à l'université Lille 3, directeur du laboratoire Savoir Texte Langage, auteur de plusieurs articles sur Bataille et d'un ouvrage sur lui notamment, Pratique d'écriture, pratique de pensée, figure du sujet chez Breton, Éluard, Bataille et Léris. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Ça peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature et que je crois partager. Mais je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature, si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe d'une façon inférieure. Oui. Je ne sais pas si la littérature se distingue de l'érotisme en général à cet égard, mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents.
Nous pédalions rapidement, sans rire ni parler, dans l'isolement commun de l'impudeur, de la fatigue, de l'absurdité. Au milieu d'une côte, Simone s'arrêta, prise de frissons. Nous ruisselions de sueur, et Simone grelottait, claquant des dents. Je lui ôtai alors un bas pour essuyer son corps. Il avait une odeur chaude, celle des lits de malades et des lits de débauche. Je gardais les plus grandes inquiétudes. Nous étions encore à 10 kilomètres de X. Et, dans l'état où nous nous trouvions, il nous fallait à tout prix arriver avant l'aube. Le temps depuis lequel nous avions quitté le monde réel, composé de personnes habillées, était si loin qu'il semblait hors de portée. La selle de cuir se collait à nu au cul de Simone, qui fatalement se branlait en tournant les jambes. Le pneu arrière disparaissait à mes yeux dans la fente du derrière nu de la cycliste. Le mouvement de rapide rotation de la roue était d'ailleurs assimilable à ma soif, à cette érection qui déjà m'engageait dans l'abîme du cul collé à la selle. Le vent était un peu tombé, une partie du ciel s'étoilait. Il me vint à l'idée que la mort étant la seule issue de mon érection, Simone et moi tués, à l'univers de notre vision personnelle, se substitueraient les étoiles pures, réalisant à froid ce qui me paraît le terme de mes débauches, une incandescence géométrique, coïncidence entre autres de la vie et de la mort, de l'être et du néant, est parfaitement fulgurante. Elle se branlait sur la selle avec une brusquerie de plus en plus forte. Elle n'avait donc pas plus que moi épuisé l'orage évoqué par sa nudité. J'entendais ses gémissements rauques. Elle fut littéralement arrachée par la joie et son corps nu fut jeté sur le talus dans un bruit d'acier traîné sur les cailloux.
Philippe Sabot, on vient d'entendre le premier récit de fiction de Georges Bataille. C'est un extrait d'Histoire de l'œil interprété par Jean Cotterel. Puis juste avant, on a entendu une archive de Bataille qui date de 1958. C'était dans l'émission Lecture pour tous de l'ORTF. 30 ans plus tard, donc après ce premier récit de fiction. Et pourtant, entre ces deux moments, il y a une ressemblance frappante. On a l'impression que dès Histoire de l'œil, dès 1928, toutes les problématiques de l'érotisme étaient déjà données pour Bataille, et notamment ce rapport entre littérature, puérilité et érotisme, parce qu'il faut quand même rappeler que dans ce texte Histoire de l'œil, Simone et le narrateur sont des adolescents qui expérimentent leur corps dans toutes les positions et jusque dans les moindres détails.
Oui, alors l'Histoire de l'œil, effectivement, un texte matriciel qui représente pour Bataille vraiment l'origine de son écriture et de sa pensée de l'érotisme. Alors c'est un texte qui a été rédigé pendant une cure analytique, Bataille apportant à son psychanalyste Adrien Borel chacun des chapitres pour travailler avec lui aux associations qui se produisaient. Ça n'a pas tellement marché, mais ça a produit un texte. Et effectivement, dans ce texte, alors, est-ce qu'on retrouve la puérilité dont Bataille parle ensuite ? Peut-être en un sens, mais en un sens un peu détourné. C'est-à-dire que la littérature comme jeu d'enfant, il faut peut-être l'entendre ici, dans l'Histoire de l'œil, comme, non pas ces jeux d'enfant, enfin d'enfant très... sexuellement très débridée entre Simone et le narrateur, mais il faut plutôt l'entendre comme un jeu qui permet de retourner à quelque chose qui est de l'ordre du primitif en l'homme et qui renvoie à une expérience primitive, donc déliée des conventions sociales, à l'écart des conventions sociales. D'ailleurs, l'extrait qui a été lu montre effectivement qu'ils s'éloignent de la civilisation. Ils entrent dans un espace indéterminé où peut apparaître justement cette dimension d'une sexualité profonde et où peut apparaître ce que cette sexualité a d'érotique, c'est-à-dire de rapport à une limite, de confrontation à une limite et d'ouverture. Il est question du ciel étoilé, donc d'un espace infini, d'ouverture à cette infinité qui caractérise, à mon sens, l'érotisme selon Bataille.
Vous avez prononcé le terme, Philippe Sabot, il s'agit, c'est une question de limite, l'érotisme chez Bataille. C'est-à-dire que c'est tout à la fois, on peut dégager plusieurs limites d'ailleurs dans l'histoire de l'œil. Il y a les limites des corps, c'est-à-dire que quand on lit Histoire de l'œil, on fait l'expérience quand même de corps qui s'imbriquent dans toutes les positions. Les genoux sont mis derrière la tête, le cul arrive sur les yeux, enfin c'est assez acrobatique. Donc il y a vraiment une exploration des limites même physiques, géométrique des corps. Il y a aussi les limites évidemment morales, acceptables. On peut être même dégoûté, c'est-à-dire que c'est même de l'ordre de la sensation, on peut être dégoûté par ce qu'on lit. Et puis il y a aussi l'exploration de ce qu'est la question même de la limite. C'est-à-dire que quelle est cette transgression? On la franchit uniquement pour la préserver, uniquement pour ne pouvoir la franchir à nouveau.
Oui, alors effectivement, le rapport à la limite est tout à fait essentiel parce que de ce rapport à la limite dépend la nature et la profondeur, la portée de la transgression. La transgression, c'est le franchissement d'une limite. Alors chez Bataille, il ne s'agit pas simplement de franchir une limite ou de dépasser les conventions ou les possibilités du corps. Il s'agit vraiment de se tenir à la limite, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la limite et d'ouvrir en fait, en se tenant à la limite, quelque chose qui est de l'ordre de ouvrir une perspective sur la totalité, sur une continuité à rétablir avec le tout. Donc il y a vraiment une perspective, on pourrait dire métaphysique, dans cet accès à la limite, la transgression étant vraiment le mouvement qui fait apparaître la limite et qui fait apparaître la limite dans le mouvement où la limite ouvre elle-même sur de l'illimité.
Oui, mais le problème, Philippe Sabot, quand on lit Histoire de l'œil, c'est aussi qu'on est au plus ras du réel. C'est vraiment ras les pâquerettes. On va le dire comme ça, c'est-à-dire que c'est assez vil, c'est sale, on est dans la boue, on est dans la pluie, on se met les fesses dans du lait, on se casse les œufs avec ses fesses. Pour le coup, hormis dans le texte qu'on a entendu, ce moment où Bataille dit « incandescence géométrique, coïncidence de la vie et de la mort, de l'être et du néant », qui sont pour le coup des termes très chargés métaphysiquement, les scènes décrites ne sont pas du tout métaphysiques, ça n'est pas... L'érotisme n'est pas traité comme un objet philosophique dans ce texte.
Alors effectivement, hein, ça reste un texte littéraire avec des scènes, effectivement, dont on a bien entendu la teneur extrêmement matérielle. Alors quand je parlais de métaphysique, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi cette matérialité, cette présence de la matérialité des corps dans le livre. Et au contraire, je dirais, chez Bataille, on a affaire à une métaphysique retournée. C'est-à-dire une métaphysique qui s'enfonce, le terme est présent dans l'extrait qui a été lu, c'est une métaphysique qui s'enfonce dans la matière, qui s'enfonce dans les corps pour découvrir au-delà des corps, et des corps simplement matériels, qui n'offrent que des plaisirs fades, pour découvrir quelque chose qui restitue l'expérience humaine dans sa profondeur et dans une espèce d'intégrité vers laquelle Bataille essaye d'aller. Donc le métaphysique auquel je faisais allusion n'est pas une poussée vers le haut.
Élévation.
Ce n'est pas une élévation, c'est une chute brutale, vertigineuse, pour reprendre des termes que Bataille emploie souvent, une chute vertigineuse vers le bas dans la matérialité.
Et cette chute vertigineuse, comment Bataille peut-il en rendre compte? La question se pose parce que cette question des limites qui est sans cesse explorée pose aussi le problème du langage, c'est-à-dire que cette expérience de l'érotisme qui nous met dans un état d'extase, c'est-à-dire qu'on a entendu Simone au moment de l'orgasme, à la fin du texte, est littéralement arrachée par la joie et son corps nu est jeté sur le talus dans un bruit d'acier traîné sur les cailloux. Comment rendre compte de cette expérience folle qu'est l'orgasme et que produit l'érotisme? Se pose la question même de l'écriture de l'érotisme.
Oui, alors c'est une question évidemment très, très importante pour Bataille qui a commencé par l'écriture et qui s'est acharné à écrire cette expérience de la transgression, pas simplement à la décrire, mais à essayer de la porter dans des mots. Et on s'aperçoit qu'effectivement, souvent dans les textes de Bataille, au moment crucial où quelque chose apparaît, quelque chose s'ouvre, où la limite semble atteinte, à ce moment-là, on a régulièrement trois petits points, même des lignes de points. C'est-à-dire c'est une expérience en pointillé pour laquelle nous n'avons pas de mots. Et donc les mots enflent, on pourrait dire, jusqu'au moment où quelque chose de l'ordre du silence se fait et où, alors peut-être l'imagination du lecteur est propulsée dans cet infini que Bataille a pu ouvrir dans son récit, mais je pense que cette suspension signale aussi quelque chose qui est de l'ordre de la transgression. La transgression nous mène à quelque chose de l'ordre de la suspension. Cette suspension, c'est le moment où quelque chose de l'ordre de la continuité apparaît, se fait jour, comme un horizon vers lequel tous ces débats de corps, tous ces débats avec le langage nous mènent.
Vous avez prononcé, Philippe Sabot, le terme de continuité. On va voir tout de suite à quoi ça fait référence.
De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. À proprement parler, ce n'est pas une définition. Mais je pense que cette formule donne le sens de l'érotisme mieux qu'une autre. S'il s'agissait de définitions précises, il faudrait certainement partir de l'activité sexuelle de reproduction, dont l'érotisme est une forme particulière. L'activité sexuelle de reproduction est commune aux animaux sexués et aux hommes. Mais apparemment, les hommes seuls ont fait de leur activité sexuelle une activité érotique. Ce qui différencie l'érotisme et l'activité sexuelle simple étant une recherche psychologique indépendante de la fin naturelle donnée dans la reproduction. De cette définition élémentaire, je reviens à la formule que j'ai proposée en premier lieu, selon laquelle l'érotisme est l'approbation de la vie jusqu'à la mort. En effet, bien que l'activité érotique soit d'abord une exubérance de la vie, l'objet de cette recherche psychologique indépendante, comme je l'ai dit, du souci de reproduction de la vie, n'est pas étranger à la mort. J'ai dit que la reproduction s'opposait à l'érotisme, mais le sens fondamental de la reproduction n'en est pas moins la clé de l'érotisme. Chaque être est distinct de tous les autres. Sa naissance, sa mort et les événements de sa vie peuvent avoir pour les autres un intérêt, mais il est seul intéressé directement. Lui seul naît, lui seul meurt. Pour nous, qui sommes des êtres discontinus, la mort a le sens de la continuité de l'être. La reproduction mène à la discontinuité des êtres, mais elle met en jeu leur continuité, c'est-à-dire qu'elle est intimement liée à la mort. Nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure intelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue.
Philippe Sabot, nous avons entendu un extrait de L'érotisme, c'est un texte de 1957, interprété ici par Jean Cottrel. Alors dans cet extrait, qui est beaucoup plus théorique que Histoire de l'œil, beaucoup moins imagé, Bataille fait une distinction, une double distinction entre d'une part l'érotisme et la sexualité, et d'autre part la continuité et la discontinuité. On peut s'arrêter notamment sur deux phrases, la première qui est magnifique. De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Et enfin, tout à la fin du texte, donc nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure intelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue. L'expérience dont vous faisiez part tout à l'heure, Philippe Sabot, à propos de l'érotisme qui ouvre sur cette expérience des limites, au-delà des limites ou sur les limites, est-ce l'érotisme qui le permet, en nous permettant de retrouver la continuité perdue.
Alors, effectivement,
et que faut-il entendre alors, oui, précisément par continuité ?
Oui, alors moi ce qui me frappe dans cet extrait, c'est effectivement le caractère nostalgique qui est affirmé par Bataille. Donc on a bien l'idée que l'érotisme nous permet de revenir à quelque chose qui a été perdu. Ce quelque chose, c'est la continuité. Et ça a été perdu au profit de la discontinuité qui se marque pour Bataille dans l'activité sexuelle ordinaire, l'activité reproductrice, mais également dans le travail, par exemple, qui est aussi une activité discontinue. Donc production, on pourrait dire, et reproduction sont des activités ou renvoient à des activités de l'ordre du discontinu. Et en deçà de cette discontinuité qui caractérise la vie ordinaire, la vie habituelle, il faut revenir donc à quelque chose de l'ordre de la continuité. Et on ne peut pas y revenir comme ça, il faut le provoquer. Et il faut provoquer des ouvertures vers cette continuité perdue, restaurer cette continuité par justement la sexualité profonde qui est le vecteur de l'érotisme et dont on a eu un exemple avec l'histoire de l'œil. Donc à mon avis, il y a vraiment une continuité, c'est le cas de le dire, entre l'histoire de l'œil et l'érotisme dans ce qui est l'obsession de Bataille, c'est-à-dire retrouver quelque chose de l'ordre de la continuité. Alors cette continuité, qu'est-ce que c'est ? Cette continuité, c'est, on pourrait dire, un mouvement de la vie elle-même, par exemple, le travail interrompt en différant notre désir, en différant notre jouissance des objets que nous produisons, que la sexualité ordinaire interrompt en réalisant simplement des segments de vie, des vies individuelles, notion très importante pour Bataille, et précisément, et on le voyait déjà avec l'extrait de l'histoire de l'œil, l'érotisme permet d'accéder à quelque chose, ou à un moment, ou à un espace-temps, on pourrait dire, où le régime de la séparation est aboli au profit du régime de l'unité, ou reprendre un terme employé tout à l'heure, de la coïncidence entre les extrêmes. Coïncidence aussi des corps dans l'acte sexuel, mais qui se prolonge au-delà de lui-même pour ouvrir vraiment des perspectives sur une totalité qui est la totalité de la vie. Il y a une sorte de vie matérielle vers laquelle l'érotisme tend et surtout vers laquelle l'érotisme peut nous donner peut nous permettre d'avoir accès. Il me semble que cette notion d'approbation de la vie jusque dans la mort elle indique que c'est seulement dans la mort, on pourrait dire même au-delà de la mort, que se trouve vraiment restaurer cette continuité. L'approbation de la vie jusque dans la mort, c'est prendre le risque de la mort. Et l'érotisme va jusque-là pour Bataille. Hein, c'est un érotisme noir et cruel. Il faut aller jusqu'à la possibilité de la mort pour hausser la vie à un autre niveau d'exigence qui correspond à cette continuité fondamentale, première, vers laquelle finalement Bataille n'a cessé d'aller.
Mais c'est très ambigu en fait cette idée de continuité, tout comme celle d'ailleurs d'unité qu'on trouve dans l'expérience intérieure, tout comme celle de communion qu'on peut trouver dans des textes plus politiques, même s'il va nuancer son propos comme on l'a vu hier. Cette unité, cette absence de limite que veut conquérir Bataille à travers la poésie, la politique ou l'érotisme est une situation que l'on a beaucoup de mal à, ne serait-ce qu'à nommer. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce à quoi il veut tendre. C'est-à-dire que c'est plus que l'union des corps dans l'érotisme.
Oui.
C'est plus que l'amour, c'est plus que dépasser l'utilité des mots ou l'utilité des échanges dans une société. Quelle est cette zone, en fait? Où est-ce qu'elle se trouve? Et pourquoi l'érotisme est peut-être la voie d'accès la plus accessible pour tous?
Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà des limites? Difficile de le savoir, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Bataille s'interrompt lui-même lorsque quelque chose semble indiquer qu'on est en train de passer au-delà. À mon avis, il y a quelque chose de l'ordre du sacré qui correspond à cette continuité ou à cet élan vers la continuité restaurée. C'est-à-dire qu'il s'agit de sacrifier la discontinuité dans l'érotisme en particulier pour parvenir une dimension sacrée de l'existence qui, là encore, ne projette pas vers une transcendance, mais plutôt renvoie et s'enracine dans les formes les plus matérielles, les plus obscènes de l'immanence.
C'est intéressant aussi la distinction que fait Bataille, non seulement entre continuité et discontinuité, mais aussi entre sexualité et érotisme, parce que la sexualité a quelque chose de naturel, et pourtant l'érotisme apparaîtrait plutôt comme un art autour de ce fait naturel qu'est la sexualité, et pourtant la tâche revient à l'érotisme de restaurer une unité originelle qui aurait été perdue, puisque Bataille semble nostalgique de cette perte.
Alors, il faut sans doute faire une distinction entre une compréhension habituelle, disons, de l'érotisme qui fait de l'érotisme un supplément d'âme de la sexualité, ou on pourrait
une
dire
sorte
aussi,
d'agrément,
voilà, une sophistication de la sexualité. On le voit avec les quelques exemples qui ont été évoqués. Chez Bataille, il ne s'agit pas du tout de sophistiquer la sexualité pour l'embellir ou accéder à quelque chose de l'ordre du sublime dans l'ordre de l'amour. Bon, c'est pas le point culminant de l'amour, c'est le point où quelque chose s'effondre. C'est l'érotisme, c'est dans la noirceur de l'expression du désir, et encore une fois y compris dans le meurtre, dans la profanation, dans le sacrilège, c'est vraiment une manière de trouver ce point d'articulation ou de coïncidence entre la vie et la mort, entre l'être et le néant, c'est-à-dire de trouver le moment d'interruption, on pourrait dire d'interruption de la discontinuité, d'interruption de l'isolement des individus, puisqu'au fond, pour Bataille, dans la sexualité ordinaire, les individus restent séparés. Bon. Et donc, il faut dépasser cette séparation, franchir la limite qui sépare les individus isolés d'une totalité qui, pour Bataille, a une dimension proprement sacrée.
Comme tu dis, oh ma beauté, peu pour toi je dois chanter. Je chante un petit machin très gentil que tu as, ma belle, et qui me tente. Ce n'est pas tes dessous de bras, ni le bout de tes appâts qui pendent. Non, non, c'est tout simplement un machin qui est pendu en amande. C'est ni trop mou, ni trop dur, c'est un rose qui tire sur le rouge. Quand c'est pris d'une émotion qui lui donne le petit frisson, ça bouge. Quand on y touche au bonheur, comme le calice d'une fleur, ça s'ouvre. On pourrait, sans ses profonds, y entrer un petit ballon du Louvre. Y a des gens qui aiment sans détour et qu'il y ait quelque chose autour qui frise. Mais que ce soit blond ou noir, souvent ça leur en fait voir de grise. Moi je suis comme les orientaux, je trouve que c'est bien plus beau sans voile. C'est un petit endroit bien chaud qui n'a pas besoin de fourneau ni de poêle.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez Jean-Loup, son petit machin, et vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. C'est une semaine consacrée à Georges Bataille. Et pour ce troisième moment, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Sabot, professeur de philosophie à l'université Lille 3, directeur du laboratoire Savoir, Texte, Langage, auteur de nombreux articles sur Bataille et notamment d'un livre Pratique d'écriture, pratique de pensée, figure du sujet chez Breton et Luard, Bataille et les Ris. C'est disponible aux presses universitaires du Septentrion. Et auteur également de Littérature et guerre, Sartre, Malraux, Simon. Ça, c'est disponible aux éditions PUF. Philosophie et littérature, approche et enjeu d'une question, aussi aux éditions PUF.
Je ne songe pas à protester contre la tendance profonde. Elle est l'expression du destin qui voulut l'homme riant de ses organes reproducteurs. Mais ce rire, qui accuse l'opposition du plaisir et de la douleur, en marque aussi la parenté fondamentale. Le rire est l'attitude de compromis qu'adopte l'homme en présence d'un aspect qui répugne, quand cet aspect ne paraît pas grave. Aussi bien l'érotisme envisagé gravement, tragiquement, représente un entier renversement. Ce dont ce grand rire nous détourne est l'identité du plaisir extrême et de l'extrême douleur, l'identité de l'être et de la mort. S'il n'est rien qui ne nous dépasse malgré nous, devant à tout prix ne pas être, nous n'atteignons pas le moment insensé auquel nous tendons de toutes nos forces et qu'en même temps nous repoussons de toutes nos forces. L'être nous est donné dans un dépassement intolérable de l'être, et puisque dans la mort, en même temps qu'il nous est donné, il nous est retiré, nous devons le chercher dans le sentiment de la mort. Dans ces moments intolérables, où il nous semble que nous mourons, parce que l'être en nous n'est plus là que par excès, quand la plénitude de l'horreur et celle de la joie coïncident, à l'issue de cette réflexion pathétique, qui dans un cri s'anéantit elle-même, nous retrouvons Dieu. Mais ce que le mysticisme n'a pu dire, au moment de le dire, il défaillait. L'érotisme le dit. Dieu n'est rien s'il n'est pas dépassement de Dieu dans tous les sens, dans le sens de l'être vulgaire, dans celui de l'horreur et de l'impureté, à la fin, dans le sens de rien.
Mon hébétude, une voix trop humaine me tira. La voix de Madame Edouarda, comme son corps gracile, était obscène.
Tu veux voir mes guenilles ?
Disait-elle. Et deux mains agrippées à la table, je me tournai vers elle. Assise, Elle maintenait haute une jambe écartée. Pour mieux ouvrir la fente, elle achevait de tirer la peau des deux mains. Ainsi, les guenilles d'Edwarda me regardaient, velues et roses, pleines de vie comme une pieuvre répugnante. Je balbutiais doucement. « Pourquoi fais-tu cela ?»«
Tu vois, je suis Dieu. » »«
Je suis fou. » »«
Mais non, tu dois regarder. Regarde. »
Sa voix rauque s'adoucit. Elle se fit presque enfantine pour me dire avec lassitude, avec le sourire infini de l'abandon.
« Comme j'ai joui. »
Philippe Sabot, on vient d'entendre tout d'abord, interprété par Jean Aucotrel, un extrait de la préface à Madame Edwarda, préface qui date de 1956. Et on a entendu à l'instant, interprété par Johanna Lizard et Mac Barbet, c'est dans l'émission Mauvais Genre du 16 juin 2012, un extrait de ce très court récit qu'est Madame Edwarda, qui d'abord en fait a été publié en 1941. Vous faisiez un parallèle entre sacré et sexualité, entre sacré plutôt et érotisme. Et effectivement, on entend que là, Dieu, c'est carrément une prostituée, c'est Madame Edwarda.
Oui, donc on voit bien la continuité entre les textes de bataille, hein, qui encore une fois est mu par une sorte d'intuition et d'obsession tout au long de son travail d'écrivain et de penseur. Et ici, cette obsession, elle se marque effectivement autour du thème de Dieu. Dieu qui est projeté dans le sexe d'Edwarda et qui est une sorte qui produit une sorte de fascination. Regarde, je suis Dieu. Donc il faut que le regard, que l'œil et le sexe coïncident à nouveau, comme dans l'histoire de l'œil. Et il me semble que de ce point de vue, on a bien ici l'idée, on prend la mesure de ce que Bataille cherche, propose de renverser tout ce qui ressemble à de l'idéalisme, tout ce qui ressemble aux valeurs hautes, aux valeurs du haut, et à les renverser pour les faire passer en bas. Et de ce point de vue, l'œil qui ici se trouve face au sexe, hein, regarde, je suis Dieu. L'œil, c'est cet organe intellectuel, cet organe de la théorie qui n'a plus rien d'autre à contempler que la sexualité dans toute son obscénité. La sexualité telle qu'elle ne devrait pas être montrée et telle qu'elle se montre précisément dans les gestes transgressif de Madame Edwarda, qui est elle-même un personnage transgressif par rapport aux bonnes mœurs, disons, puisqu'elle est prostituée.
Mais est-ce que c'est véritablement, Philippe Sabot, un renversement en fait entre le bas et le haut, entre le sacré et l'érotisme? On a plutôt l'impression chez Bataille en fait qu'il y a une transfiguration de l'un par l'autre, parce que atteindre Dieu en passant, en tournant le regard vers le bas, n'implique pas que Dieu ait chuté, mais bien plutôt qu'en fait Dieu et l'érotique, le sale, on va dire, pour reprendre le terme même de Bataille, se trouvent au même niveau d'ailleurs. On entend en fait dans tous les textes de Bataille ce terme d'horreur qui revient. On vient de l'entendre dans la préface à Madame Edwarda. Et effectivement, l'horreur permet peut-être de comprendre ce qui transfigure, ce qui est transfiguré chez Bataille plus que renversé.
Oui, alors c'est vrai qu'employer la notion de renversement comprend une certaine ambiguïté, parce que si on renverse le haut, si on passe du haut vers le bas,
c'est comme si on maintenait l'opposition.
On maintient l'opposition. Et puis on fait du bas une valeur haute, ce qui évidemment n'est pas le propos de Bataille. Il s'agit plutôt, et c'est ça la dynamique transgressive, de réduire tout ce qui passe pour le haut, pour le noble, pour l'ordre du
l'idéal,
du convenable, voire de l'idéal, de le faire passer dans la matérialité, dans l'obscène. Et donc de le réduire à néant même, puisque la notion de néant a été prononcée. Donc Dieu n'est rien s'il n'est pas dépassement de Dieu dans tous les sens, dit Bataille. Dieu n'est rien, on pourrait dire même plus radicalement. C'est-à-dire qu'il est ramené à ce rien au lieu d'être le tout dont notamment qu'il est pour le christianisme.
Mais que se passe-t-il précisément dans l'érotisme, Philippe Sabot? C'est-à-dire qu'on a parlé de cette expérience, l'érotisme qui nous ouvrait aux limites sans vraiment pouvoir les définir. On est de l'ordre de l'extatique, c'est-à-dire que c'est comme l'extase érotique est la même que l'extase mystique. Il y a une perte de repères, on est en dehors de tout, on a du mal à en rendre compte. Et pourtant, on doit aussi se poser la question, cette extase, ce n'est pas seulement le fait d'être hors quelque chose, il y a une rencontre avec Dieu. La question se pose, est-ce qu'il y a une rencontre avec Dieu ou une identification à Dieu, ou est-ce que l'on devient Dieu dans l'érotisme, c'est-à-dire qu'on deviendrait cette espèce de maître tout puissant qui aurait la totale maîtrise. On retrouverait ce terme d'ailleurs de souveraineté qui est courant chez Bataille. Que se passe-t-il en fait dans cette expérience extatique de l'érotisme?
Alors l'extase, effectivement, c'est un thème très important pour Bataille, hein, qui est au centre de l'expérience intérieure, ce qui a conduit d'ailleurs Bataille à être traité de nouveau mystique par Sartre. Et l'extase est un thème très important parce que il signifie pour Bataille une sortie de soi. Au sens où on sort de cet isolement ou de cette individualité qu'il faut dépasser. On sort de soi, donc, et en même temps, cette sortie de soi ne se fait pas vers le haut, mais cette sortie de soi se fait dans la dimension de ce que Bataille appelle justement une expérience intérieure, qui n'est pas une expérience psychologique, mais qui est l'expérience d'une dissolution. Et au fond, il ne s'agit pas de rencontrer Dieu, comme peuvent le faire les mystiques, justement dans l'extase. Il s'agit de rencontrer, de percevoir directement, brutalement, que Dieu n'est rien, ou que Dieu n'est rien d'autre que le sexe d'Edwarda.
Ou se prendre pour Dieu aussi, d'une certaine manière.
Alors, Edwarda fait partie de ces personnages qui, comme l'indiquait l'extrait de la préface, on pourrait dire que c'est un personnage ironique, justement, parce que en découvrant ses guenilles, pour prendre les termes de Bataille, en découvrant ses guenilles, elle éclate d'un grand rire. C'est-à-dire que Dieu se rit de lui-même en se montrant sous cet aspect obscène. Et donc Dieu n'est rien, pour reprendre de manière un peu raccourcie la formule de Bataille. Et Dieu n'est rien que le dépassement, c'est-à-dire que tout ce qui reste de Dieu, c'est ce mouvement de dépassement, c'est cette expérience ou cette épreuve des limites qui confronte justement à la possibilité d'un dépassement et aussi à l'impossibilité du dépassement. Parce qu'on ne dépasse jamais vers quelque chose. On est dans le dépassement. Le dépassement n'est pas un état, c'est une pure dynamique, un pur mouvement. Et c'est ça l'extase.
C'est intéressant, vous venez de parler justement de rire, Philippe Sabot, et dans le texte qu'on a entendu interprété par Jean Cotterel, donc la préface à Madame Edwarda, il est dit ceci: le rire est l'attitude de compromis qu'adopte l'homme en présence d'un aspect qui répugne quand cet aspect ne paraît pas grave. Aussi bien l'érotisme envisagé gravement, tragiquement, représente un entier renversement. Bataille est-il si ironique que ça avec l'érotisme?
Alors, Bataille n'est pas, on pourrait parler d'érotisme noir, Bataille n'est pas, ne fait pas forcément rire. Et d'ailleurs, quand on
Histoire de l'œil, c'est assez drôle, il faut le reconnaître. On peut être pris de fou rire, peut-être nerveux, mais c'est néanmoins assez drôle.
Alors, c'est assez drôle, et en même temps, les passages qui peuvent nous faire rire, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les passages qui peuvent nous faire rire sont suivis de passages où sont décrits par le détail des atrocités hein, de l'ordre du sacrifice humain. Bon, donc on ne rit jamais tout le temps avec Bataille. Et Bataille, justement, comme le disait l'extrait, interrompt toujours le rire qui pourrait être un rire spontané par une sorte de gravité qui rappelle que le rire lui-même est une ouverture. Le rire lui-même est un mouvement d'extase. Quand nous rions, nous ouvrons à quelque chose, nous nous ouvrons à une réalité qui nous fait rire, mais derrière laquelle nous pouvons découvrir quelque chose qui renvoie à une condition beaucoup plus tragique et qui renvoie à cette profondeur de la sexualité et à cette continuité sourde qui caractérise l'expérience humaine.
L'essence de l'homme, fut-elle donnée dans la sexualité, qui en est l'origine et le commencement, lui pose un problème qui n'a d'issue que l'affolement. Cet affolement est donné dans la petite mort. Pourrais-je vivre pleinement la petite mort, sinon comme l'avant-goût de la mort finale? La violence de la joie spasmodique est profondément dans mon cœur. Cette violence, en même temps, je tremble de le dire, est le cœur de la mort. Il s'ouvre en moi. L'ambiguïté de cette vie humaine est bien celle du fou rire et des sanglots. Elle tient à la difficulté d'accorder le calcul raisonnable qui la fonde avec ses larmes, avec ce rire horrible. Le sens de ce livre est en premier pas d'ouvrir la conscience à l'identité de la petite mort et d'une mort définitive, de la volupté, du délire à l'horreur sans limite. Philippe Sabot, je viens de lire l'avant-propos des larmes d'Eros qui paraît en 1961, soit un an avant la mort de Georges Bataille. On est parti de son premier récit de fiction, Histoire de l'œil, qui lui est paru en 1928. On arrive quelques décennies plus tard aux larmes d'Eros qui finalement en fait reprennent cette distinction entre sexualité et érotisme, reprennent aussi ce que l'on vient de dire, à savoir cette idée d'horreur, mais aussi de rire, d'identité entre le rire horrible et les larmes qui permettent aussi de s'opposer en fait à la raison, cette ouverture en moi que permet l'érotisme. Mais il y a quand même cette question qui est: pourrais-je vivre pleinement la petite mort sinon comme l'avant-goût de la mort finale? L'érotisme finalement n'est-il que vie uniquement parce qu'il nous permet justement de vivre ce que l'on ne vivra jamais, à savoir la mort?
Alors, c'est vrai que la notion de petite mort renvoie à une sorte de préfiguration de cette continuité, de cette restitution d'une restitution de l'unité de l'homme avec le tout, mais ça n'en est qu'une préfiguration, c'est-à-dire que l'homme prend conscience, hein, la notion est présente dans l'extrait que vous avez lu, l'homme prend conscience que quelque chose va lui échapper toujours. Et ce quelque chose, c'est la réalisation finalement de ce désir de continuité. Et on a chez Bataille, il me semble, constamment cette idée d'un désir qui poursuit une fin, comme tout désir. La fin, c'est cette continuité, cette au-delà de la mort. Mais au fond, le désir est toujours manqué, c'est-à-dire qu'il ne parvient jamais à atteindre son objectif. Et Bataille, d'ailleurs, avait écrit au dos d'un manuscrit: l'homme est ce qui lui manque. Et il me semble qu'à travers cette formule un peu lapidaire, mais enfin très très intéressante, on comprend que quelque chose manque toujours à l'homme. Et finalement, la petite mort, c'est à la fois le seul accès que nous pouvons avoir à travers l'orgasme a un aperçu sur cette continuité, et en même temps c'est un aperçu fugitif qui à peine dévoilé disparaît. Donc on est dans une logique de dévoilement et de retrait qui fait que la petite mort est notre seul accès, mais notre seul accès limité à l'illimité.
Ce qui est fou quand même, c'est que Bataille a parlé d'érotisme de manière très sérieuse, qu'il essaye de maîtriser la mort en théorisant la petite mort, alors même que toute son entreprise est de mettre la main sur cette expérience qui ne se dit pas, cette expérience de souveraineté qui ne consiste pas en un pouvoir et en une maîtrise, mais justement en une extase, en une perte de repères. Et finalement, son entreprise est elle-même paradoxal, c'est-à-dire ne cesser de tourner autour de ce désir, de ce trou, de cette béance, finalement, uniquement pour la rationaliser. Quand on lit certains textes de l'érotisme, on a l'impression d'être dans une parodie même de l'érotisme.
Oui. Alors, pour la rationaliser, oui et non, au sens où dans les textes qui accompagnent l'érotisme, il y a un texte qui s'intéresse à la philosophie, justement, qui propose une déviation de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut dévier d'un certain discours rationalisant qui rendrait compte de manière presque d'une méthode, de manière méthodique de la façon dont on peut accéder à cet objectif d'une restauration de la continuité, mais dont on peut réparer cette nostalgie, revenir vers l'unité perdue, etc. Bon. Il me semble que Bataille, justement, comme on voit, l'érotisme parcourt vraiment toute son œuvre, hein, du début à la fin, n'a cessé de revenir sur cette expérience, précisément parce qu'il ne parvient jamais à dire autre chose que le fait que cette expérience est manquée et même vouée à être manquée. Et l'homme est ce qui lui manque, et l'homme manque aussi toujours cette expérience. Et c'est le sens même de l'expérience que d'être manqué.
Et c'est le tragique de l'érotisme.
Tout à l'heure, dans l'extrait des larmes d'Eros, on avait un rire qui est un fou rire, donc un rire qui déborde et qui peut être une manière de rire aux larmes, mais rire aux larmes, c'est aussi retourner le rire en angoisse. Et donc, il y a vraiment une dimension d'angoisse qui caractérise ce rapport à l'érotisme chez Bataille. Well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Getting that soft, but you still keep a beating. You meet a pulp, and you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kick Casanova, you're a no Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. You've had them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with no money hair. Merci beaucoup Philippe Sabot. Je rappelle que l'on peut lire de vous, alors à propos de Bataille, plusieurs articles. On mettra les liens en ligne sur notre site. Et puis aussi ce livre, Pratique d'écriture, pratique de pensée, figure du sujet chez Breton, Éluard Bataille et les RIS. C'est disponible aux presses universitaires du Septentrion. Et puis vous êtes aussi l'auteur de Littérature et guerre, Sartre, Malraux, Simon, disponible au PUF. Philosophie et littérature, approche et enjeu d'une question, c'est aussi au PUF. Et puis bien sûr, chers auditeurs, vous pouvez lire les œuvres complètes de Georges Bataille, elles sont disponibles aux éditions Gallimard.
Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour la suite et la fin de notre expérience Georges Bataille. Et demain, j'aurai le plaisir de recevoir Michel Suria, le grand spécialiste de Bataille, pour évoquer son hypermorale de la question de la culpabilité et du péché à celle du mal et de l'aveu. Et quant à vous, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, la télécharger, podcaster, et vous y trouverez en plus toutes les références bibliographiques et musicales. Et vous pouvez aussi, bien sûr, nous retrouver sur Facebook et Twitter pour suivre nos programmes.